Raison gardée, une émission proposée par la Libre Pensée de Meurthe-et-Moselle.
Bonjour à tous. Bienvenue dans notre nouvelle émission Raison gardée, l'émission proposée par la Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle. Aujourd'hui avec Charles. Bonjour Charles.
Bonjour.
Et notre intervenante que vous avez entendue la dernière fois, Isabelle.
Bonjour. Bonjour.
Et Rémi à la technique. Merci Rémi. La Fédération des Libres Penseurs de Meurthe-et-Moselle est affiliée à la Fédération Nationale de la Libre Pensée, qui dispose d'un site très riche sur lequel vous pourrez voir tous les combats qui sont menés par cette fédération concernant la laïcité, l'antimilitarisme et l'école de la République, qui sera le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Et plus particulièrement, nous allons prolonger le thème de notre précédente émission sur les contractuels, en creusant un petit peu notre découverte de ce statut particulier de la fonction publique, et plus particulièrement à l'éducation nationale, et en interrogeant aussi les raisons de ce recours au contractuel et les dangers de la contractualisation elle-même. Alors, les contractuels, on entend parler dans les médias, souvent au moment des entretiens pour évoquer les conditions de l'embauche de ces contractuels, ou pour pointer du doigt l'absence ou la brièveté de la formation qu'il aurait proposé. Et nous avions évoqué dans notre précédente émission justement ces aspects, et aussi un aspect très concret qui est la question du salaire et de l'écart entre le traitement du titulaire et le salaire du contractuel, parce qu'un fonctionnaire a un traitement et non pas un salaire, si je ne me trompe pas, Isabelle. Donc Isabelle, tu étais enseignante jusqu'à il y a peu, et tu es investie dans la vie syndicale et militante depuis toujours et encore maintenant. Même si tu es à la retraite, tu continues à te battre pour ce métier et pour ceux qui le font. Et tu nous as expliqué la dernière fois justement ce qu'était ce statut de contractuel. Et nous avions eu l'occasion de parler des similitudes entre le contractuel et le titulaire en ce qui concerne ses obligations. Et nous avions aussi abordé la question de ce salaire et les écarts. Mais il y a quand même, outre les salaires, pas mal de différences. Dans la dernière émission, on avait parlé de la différence concernant la formation. C'est vrai que l'offre de formation est moins importante pour un contractuel. Et il arrive que parce qu'il est en poste et qu'on a besoin de lui, son chef oublie de lui dire qu'il y a une formation qui lui est dédiée et qu'il est censé s'y présenter. Qu'est-ce qu'on peut encore dire aujourd'hui ensemble du statut particulier d'un contractuel dans l'éducation nationale par rapport à un titulaire?
On peut encore parler des droits, par exemple les droits à congé de maladie ne sont pas les mêmes, mais là je ne vais pas développer. On peut dire que pour le calcul de la pension de retraite, comme il relève du régime général, ce n'est pas du tout la même chose que quand on est fonctionnaire. Et puis, sans parler du cadre, on va dire, légal, on peut parler de ce qui relève de la réalité du quotidien, des conditions de travail, des conditions de vie des contractuels qui sont par certains côtés, on pourrait dire, maltraités par l'institution.
Par exemple, un titulaire, il a son poste, ou il a sa zone. Pour un titulaire qui est sur une zone de remplacement. Alors le contractuel, lui, comment va-t-il apprendre où il est nommé?
Alors le contractuel, il peut avoir un contrat qui va être à l'année, mais on va dire que ça c'est la situation la plus confortable. Il est nommé à partir du 1er septembre et jusqu'au 31 août, ça c'est Byzance, parce qu'il n'y a pas besoin de se poser la question de savoir s'il sera payé pendant les grandes vacances ou pas. Là c'est sûr, son contrat couvre toute la période. Il y en a d'autres, alors ça c'est compliqué parce que ça dépend des types de supports sur lesquels ils sont affectés. Il y en a d'autres qui vont avoir un contrat qui va s'arrêter au moment des grandes vacances. Donc il va être non rémunéré pendant les vacances scolaires, même si maintenant, normalement, à partir du moment où le service a couvert 10 mois de l'année, il devrait être payé pendant les vacances. Mais bon, des fois, les rectorats ont du mal à savoir que les décrets ont été votés parce qu'ils ont du mal à les appliquer. Et comme les contractuels souvent ne connaissent pas leurs droits, bah, pouf, il y en a qui passent au travers des gouttes, c'est toujours ça de gagner. Enfin, gagner
pour le
ministère. Il y en a d'autres qui vont avoir des petits contrats, ils vont avoir des petits remplacements, 3 mois par-ci, après ils vont retourner au chômage, après il faut attendre, ils vont retrouver des fois même 15 jours, hein, puisqu'à partir de 15 jours d'absence, on peut être remplacé quand on est titulaire. Donc ils vont enchaîner des petits bouts de contrat. Donc le fait d'avoir été en contrat ne donne aucune garantie d'emploi, hein, sauf éventuellement quand on est en CDI, mais bon, ça c'est encore un cas particulier, on en parlera plus tard. On va dire que il y a l'attente de savoir est-ce qu'on va être appelé en septembre. Bon, des fois l'année elle démarre et puis on n'a rien, on attend parce que si on n'est pas appelé, si on n'a pas de contrat, on n'a pas de salaire, hein, parce que des fois il y a chômage et des fois il y a pas chômage. Donc on attend. Après, on ne sait pas trop où on va atterrir. Donc on va avoir une affectation, mais on ne sait pas quelle classe on va avoir. C'est-à-dire qu'on apprend la veille pour le lendemain qu'on va être soit en collège, soit en lycée, qu'on a des sixièmes, des secondes, des premières. Faut avoir un certain sens de l'impro ou avoir vraiment toute une batterie de cours de prêt d'avance. Bon, enfin voilà. Surtout quand il y a des années de réformes successives, c'est vachement pratique. Bon, ensuite on peut avoir alors, c'est notamment dans certaines disciplines où il n'y a pas beaucoup d'heures à assurer, ou parce qu'il y a des titulaires en place mais qui ne veulent pas d'heures sup, ou enfin bref, il y a des tas de raisons qui font qu'ils vont être en service partagé, c'est-à-dire sur 2, 3, 4 établissements. Mmh. Hein, voilà.
Oui, donc il faut se déplacer de l'un à l'autre.
Donc il faut se déplacer, le matin on est là, l'après-midi on est 90 km plus loin. Je mange ma boîte de ravioli froide dans la voiture, ça on en connaît, hein, et puis ça ne dérange personne. Hein,
et puis le coffre est plein de cours tout, qu'il faut sortir au bon moment pour le bon établissement.
Voilà, et puis bon, bah, s'il y a de la neige, c'est pas grave. Les délais de route ne sont pas pris sur le temps de travail. Bon, il y a aussi l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ont des quotités de service imposées, c'est-à-dire qu'ils aimeraient bien avoir un temps plein, mais on n'a pas à leur offrir un volume horaire suffisant. Donc, ils n'ont que 14 heures sur 18, par exemple. Bon, bah voilà. Donc, le salaire est au prorata, hein, évidemment. Il y a les nouveaux, alors ils arrivent dans un établissement, ils sont installés, donc ils signent un papier officiel comme quoi ils commencent à travailler, mais alors le temps de l'installation, mon Dieu, les délais administratifs, ils vont toucher, si tout va bien, une avance, et puis une autre en octobre, et puis finalement ce sera régularisé en novembre. Bon, ben, en attendant, hein, justement, là, il faut mettre de l'essence dans la voiture, hein, et, bon, mais ça, tout ça, c'est pas grave, c'est pas important. Hein, voilà, ils se débrouillent.
Oui, voilà, c'est ça. C'est en attendant d'avoir son salaire, débrouillez-vous pour vivre, vous déplacer, voilà, payer vos factures. Bon.
Et quand ils se retournent, on parlait tout à l'heure de quand un contrat se termine, qu'il va y avoir une attente avant le prochain contrat. Normalement, ils doivent recevoir une attestation employeur pour fournir à Pôle emploi. Bah, des fois, il faut la réclamer. Hein. Et puis, avec vigueur pour l'obtenir, parce que la gestion n'est quand même pas toujours très en faveur et dans le respect des collègues. Voilà.
Est-ce qu'ils sont soumis à davantage de pression de la hiérarchie que les titulaires ? Ou est-ce qu'ils peuvent l'être ? Est-ce qu'ils
Alors, sont ça ne sera plus... jamais dit comme ça. C'est beaucoup plus insidieux. Mais quand même, souvent, je ne veux pas être spécialement malveillante envers les chefs d'établissement, mais souvent ils ne sont pas formés, ils ne savent pas et ils pensent que les contractuels n'ont droit à rien. Donc du coup, ils font comme s'ils n'avaient droit à rien. Alors sauf si le contractuel, lui, est un peu au courant de ses droits et qu'il les fait valoir, souvent, c'est un petit peu mis sous le tapis. Hein, voilà, bon.
Ouais, donc pour connaître ses droits, on peut se tourner vers des syndicats,
par exemple,
voilà, qui peuvent renseigner et vous permettre de vous défendre. Alors, ce n'était pas un statut très, très confortable, mais est-ce que c'est un phénomène totalement nouveau, finalement, ces recrutements, ce statut de contractuel et ce système de recrutement de personnes à côté des recrutements par concours ?
Alors, c'est pas nouveau. J'ai un petit peu recherché en remontant dans l'histoire de la République. Donc, on regarde dans les années 50. et même à partir de 1955 plus précisément, il y a eu une vague démographique d'après-guerre. Et on a donc eu recours, notamment dans le premier degré, à des remplaçants. Alors j'ai trouvé les chiffres. Il y avait environ 10 000 remplaçants recrutés dans le premier degré chaque année. Contre 70 000 normaliens qui ont été recrutés entre 1951 et 1964. Les normaliens, c'est parce qu'à l'époque, c'était des instituteurs, pas des professeurs des écoles, et ils passaient par l'école normale. Mmh. Hein. Maintenant, les professeurs des écoles, ils ont un master, bac plus 5, comme les enseignants du second degré. Et à l'époque, ils avaient quand même une formation d'un semestre. Enfin, quelques-uns avaient droit à une formation de un semestre. Alors, apparemment, c'était 1 sur 10 qui y avait droit. Bon, voilà. Mais donc, on a eu cette première vague de recrutement qui correspondait donc à une augmentation de la population scolaire. Voilà. Ensuite, il y a eu la création des CES, les collèges d'enseignement secondaire, avec le passage de l'école obligatoire de 14 ans à 16 ans, où là, donc, il y a eu recours à plein de non-titulaires, parce qu'il fallait des profs pour mettre devant tous ces élèves qui avaient accès à une nouvelle scolarité. Alors là, j'ai aussi trouvé des chiffres qui sont assez éloquents, c'est-à-dire que la moyenne représentait environ 20% du corps enseignant dans ces collèges, et même par endroit, ça pouvait monter jusqu'à 40, 50, 60%. Donc vraiment, on a atteint des scores. Hein, voilà.
Impressionnant.
Ensuite, donc si on remonte, donc là on était dans les années 63, 65, par là. Ensuite, donc dans les années 70, 60. 75-76, là il y a eu un recrutement massif, mais par concours, c'est-à-dire qu'on a fait le contraire, on a fait ce qui s'appelait la résorption de l'auxiliariat, c'est-à-dire qu'on a, titularisé tous ces gens qui avaient été recrutés finalement comme non titulaires, on les a fait devenir titulaires. Et le nombre de non titulaires a atteint une sorte de valeur plancher, autour de 7,5% ou même 5% dans les années 80. Et puis dans les années 80, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, on a eu de nouveau une ambition d'élévation du niveau de qualification des jeunes. Hein. Ça a été 80% des élèves au niveau bac à atteindre en l'an 2000. Oui. Donc là, il a fallu à nouveau recruter des enseignants, notamment pour les lycées. Et donc, il y a eu de nouveau une vague d'embauches de non-titulaires. Donc, on avait donc historiquement recours à des non-titulaires, soit pour faire face à une augmentation du nombre d'élèves pour des raisons donc démographiques, soit parce que les réformes amélioraient donc les conditions de formation de nos jeunes en leur faisant accéder plus massivement au collège puis au lycée.
Alors, certains de nos auditeurs se souviennent peut-être avoir entendu parler de maître auxiliaire. Est-ce que c'était la même chose, le maître auxiliaire, que le contractuel?
Alors après, dans les faits, il n'y avait pas tant que ça de différence, puisque tant qu'on n'était pas titulaire donc du concours, on avait, comme les contractuels, on relevait du régime général, donc on n'avait pas, on cotisait pas aux mêmes caisses de retraite, on n'avait pas le même calcul de pension. Mais à l'époque, on pouvait, alors je crois que c'était jusque dans, dans les années 2010-12, quelque chose comme ça, peut-être un peu plus, mais bon, on avait la possibilité, on disait, on rachetait nos années, c'est-à-dire qu'on pouvait recotiser pour avoir droit finalement à retraite, comme si on avait toujours été fonctionnaire, et maintenant on ne peut plus faire ça. Les années de contractuel, elles restent des années de contractuel, donc après on est polypensionné, un avantage qui a été perdu. Oui.
Alors, est-ce que c'est une nécessité, enfin pourquoi cette nécessité aujourd'hui de faire appel à des contractuels? Alors il y a quelques jours encore, il y a une quinzaine de jours je dirais, on avait appris que la campagne d'inscription au concours de l'éducation nationale était qui devait se terminer a été prolongé jusque début décembre. Donc il y a manifestement un problème de recrutement d'abord. C'est-à-dire que si on fait appel aux contractuels, c'est parce qu'il manque de personnes pour passer les concours et les obtenir.
Alors, il y a plusieurs paramètres. Un problème n'est jamais simple, on le sait. Il y a eu d'abord... alors là, ça n'engage que moi, hein, mais j'appelle ça une entreprise de casse du service public, c'est-à-dire une suppression de postes de fonctionnaires, une politique de non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui partait à la retraite. Donc forcément, comme les besoins restent les mêmes, il faut les couvrir. Et comme il y a moins de fonctionnaires... on a recruté, on est obligé de recruter des non-titulaires ou des contractuels. C'est une volonté politique.
Oui, c'est voilà. Par exemple, un professeur part à la retraite, plutôt que de le remplacer, eh bien, on ferme son poste. Et donc, aucun titulaire n'arrive sur ce poste. Et puis, de fil en aiguille, bien sûr, à un moment donné, on se rend compte qu'on manque de titulaires, qu'on a créé le manque, en partie.
On a créé le manque, voilà, c'est ça. Après, on manque de candidats, même parfois, pour passer les concours. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec moins de lauréats que de postes à pourvoir. En mathématiques, par exemple, c'est le cas. Hein. C'est-à-dire que même s'il y a des postes ouverts au concours, il n'y a pas suffisamment de candidats qui obtiennent ce concours. Et donc, on a plus de postes que de lauréats. Donc, pourquoi? Là aussi, pour combler le déficit, on fait appel à des non-titulaires. Et puis, il y a aussi le fait que il y a eu élévation du niveau de recrutement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait passer le concours externe avec une licence. Maintenant, il faut avoir la maîtrise. C'est-à-dire qu'on est passé de bac plus 3 à bac plus 5. Enfin, c'est plus maîtrise, c'est master, pardon. Ouais. On voit que je suis vieille.
Un master 2. Master 1, c'était 2. La maîtrise. Et bac plus 5. Et master 5. 2, c'était le 2.
Et donc, les étudiants qui obtiennent cette formation de bac plus 5, même s'ils ont fait le master MEF qui lui normalement prédispose à une formation qui est un peu professionnalisant pour devenir enseignant, une fois qu'il a son master en poche, il se dit si je compare les salaires dans le privé et le salaire que je veux avoir dans l'éducation nationale à diplôme égal, si je peux trouver dans le privé, c'est peut-être plus c'est souvent beaucoup plus intéressant. Hein. Donc, il y a un manque d'attractivité. Donc, là aussi, on entretient, quelque part, le manque de recrutement de fonctionnaires, en rendant le métier pas assez attractif, quoi.
Et puis, ça applique la règle que subit tout fonctionnaire, c'est-à-dire que le choix de la zone géographique dans laquelle on va se retrouver n'est pas possible. Donc, peut-être aussi des personnes, quel que soit leur âge, qui envisagent de passer le concours, se disent « mais où vais-je devoir partir éventuellement après ?» Ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte qui peut...
Le système de mutation et d'affectation, effectivement, des fonctionnaires peut en apeurer certains, ça c'est sûr, certains ou certaines.
Ça, c'est une règle de toute la fonction publique.
C'est une règle de toute la fonction publique.
La justice, voilà, ça fonctionne de la même façon.
Mais là aussi, il y aurait peut-être des choses à réformer dans un sens plus favorable aux conditions de vie des collègues.
Est-ce que le métier est devenu plus difficile? Ça, c'est aussi parfois ce qu'on entend, c'est-à-dire qu'il est, bon, il est moins attractif pour des raisons salariales, là, je pense que c'est une évidence, mais est-ce qu'il est concrètement plus difficile?
Ça, c'est une question difficile à répondre, parce que il y a certaines réformes, enfin notamment les dernières, les réformes Blanquer, qui sont pour des gens qui avaient une certaine conception du métier, elles sont assez délétères. Donc, il y a effectivement des conditions de travail qui peuvent engendrer une forme de souffrance au travail parce qu'on nous oblige à travailler d'une manière qui ne nous convient pas. Des réformes qui sont pas franchement faites dans... Enfin, je n'ose pas dire dans l'intérêt de l'élève, mais presque, quoi, hein, quand même. Il y a une conception du métier, une conception de la formation des jeunes qui n'est pas forcément celle à laquelle on était attaché. On n'est plus tellement dans la transmission de savoir, on n'est plus tellement dans l'instruction publique, on est de plus en plus dans une formation de compétences, il y en a même qui parlent de comportements socio-culturels visant à rendre les jeunes employables, voire pour certains vont jusqu'à dire que c'est faire accepter à certains la fameuse résilience sociale, hein, faire accepter à certains le fait que bah, de toute façon ils seront pauvres toute leur vie, puis c'est bien comme ça quoi, donc il n'y a pas besoin de trop les instruire, hein, bon, juste les rendre dociles.
Je renvoie nos auditeurs à l'émission que nous avions faite à propos du lycée professionnel et de la réforme du lycée professionnel, parce que c'était effectivement le danger qui était pointé, c'est-à-dire de veiller à l'employabilité d'un élève en lycée professionnel et non pas à l'ensemble de sa formation aussi en tant qu'être humain, citoyen, en plus d'un savoir comment dire, professionnel. Il était important de garder une instruction générale qui permette à la personne de se former intellectuellement, voilà, et de disposer de connaissances. Alors, est-ce qu'on a les mêmes besoins partout en France ? Est-ce que certaines académies sont plus en manque que d'autres ?
Alors là aussi, il y a des choses qui seraient peut-être... qu'on peut discuter. Il y a pareil, toujours du pour et du contre. Mais il y a des académies comme Créteil ou Versailles qui sont malheureusement réputés pour être des territoires délaissés par les titulaires, parce que ce sont des zones dites zones défavorisées. Elles sont classées en REP, REP+, hein, zone d'éducation prioritaire. Mais là aussi, ce sont des questions politiques. Est-ce qu'on doit créer des territoires comme ça, avec des quartiers favorisés et des quartiers défavorisés ? Est-ce qu'il ne faudrait pas mieux plutôt favoriser la mixité sociale ? Bon, parce que là aussi, il y a le pendant, parce qu'il ne faut pas croire, il n'y aura pas tous les élèves qui seront soumis à, je le dis pour faire simple, même si c'est cru, mais une éducation au rabais. Il y aura toujours les ghettos au sens noble, où il y aura des écoles privées qui vont dispenser un enseignement... À une élite.
Quand on dit qu'il y a des difficultés de recrutement dans l'académie de Versailles, à Versailles, on peut associer aussi l'image d'établissements tout à fait prestigieux et qui n'ont rien pour effrayer l'enseignant et d'autres qui effectivement sont classés donc avec tous ces sigles qui changent avec le temps, hein, mais qui indiquent toujours des zones dans lesquelles il y aurait des besoins particuliers pour aider justement ces enfants à être formés correctement et de la même manière que tous les autres, pour qu'on leur dispense vraiment le même enseignement, la même qualité d'enseignement. Oui. Et est-ce que toutes les disciplines sont concernées aussi ? Parce que tout à l'heure, tu parlais des profs de maths.
Oui, oui. Oui, oui, il y a des matières qui sont en déficit, on va dire. Je redis, il y a les maths, mais il y a aussi les lettres, hein, le français, il y a l'anglais, l'allemand, y compris dans notre académie d'ailleurs, on manque de profs d'allemand, c'est assez paradoxal. Alors là, c'est pas un trio, c'est un quatuor. De disciplines qui sont souvent... Bon, après, il y a des besoins ponctuels, parfois liés aux réformes, etc. Mais là, les quatre-là, elles sont malheureusement souvent présentes à l'appel.
Et puis là, comme la réforme Blanquer avait supprimé les maths du tronc commun, c'est-à-dire de l'enseignement commun des premières générales, donc là, quand même, certains ont vu que ça posait quelques problèmes. Donc, il a été dit, je l'ai encore entendu il y a peu, que les maths allaient revenir dans le tronc commun. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir des horaires de maths à assurer en plus. Et donc, il y a déjà une pénurie de profs pour cette discipline. Donc, la pénurie va se faire sentir. Et donc, voilà, on va sans doute entendre encore des campagnes de recrutement pour pouvoir justement mettre un professeur devant chaque élève. Ils sont... on en avait un petit peu parlé dans la précédente émission de la question de la formation. De ce que disent les médias, une formation en 2-3 jours. On peut peut-être signaler quand même et souligner quand même la solidarité et la coopération entre les enseignants, parce que il n'est pas rare que justement arrivé dans l'établissement, le contractuel soit quand même aidé, piloté, encouragé, conseillé par l'équipe en place.
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, c'est ça ce qui fait la grande différence entre les collègues, ceux qui ont la chance de tomber dans un établissement où ils vont être bien entourés, épaulés par des collègues en poste depuis longtemps, qui ont de l'expérience et qui vont pouvoir leur filer des tuyaux, leur donner des conseils, les aider à préparer leurs séquences, etc. Et puis d'autres qui vont tomber dans des établissements où bah, c'est débrouille-toi comme tu peux, va sur internet, chope ce que tu peux, débrouille-toi, fais tes classes, hein, voilà, mais ou qui même vont parfois avoir un accueil froid avec des remarques désobligeantes il y a quand même aussi des collègues qui sont méprisants envers les contractuels, quoi. Mais bon, voilà, il y a quand même souvent de la solidarité, il faut le reconnaître.
D'autant qu'on peut l'espérer, et ce sera notre dernier point, ces contractuels vont peut-être pouvoir entrer dans le métier par... alors, est-ce que des concours vont leur être dédiés? Est-ce que vraiment on peut craindre que le ministère se livre comme ça à une prolongation de cette case du service public en ne titularisant pas ces contractuels? Est-ce que tu peux nous en dire un mot pour terminer cette émission? Est-ce qu'ils vont pouvoir devenir professeurs titulaires, ces contractuels?
Alors, en plus, il faut faire attention, il y a souvent une confusion entre deux choses. Les contractuels peuvent accéder au statut de fonctionnaire, c'est-à-dire être titularisés en passant un concours, ou bien ils vont pouvoir accéder au CDI. Et parfois, il y a une confusion. Une fois que les collègues sont en CDI, ils sont à contrat à durée indéterminée, mais ils ne sont toujours pas fonctionnaires, ils n'ont pas le statut. Donc pour être CDIsable, il y a notamment la condition de continuité du service public, c'est-à-dire que les collègues doivent enchaîner 6 années consécutives de contrat sans avoir une interruption de plus de 4 mois. S'il y a interruption de plus de 4 mois, grandes vacances incluses, ils peuvent retomber à zéro.
Hein. D'accord, voilà. Oui, donc c'est quand même pas... CDI, c'est un Graal, hein, presque, dans certains cas.
Alors bon, la CDIsation, c'est comment c'est mieux que rien. D'accord, c'est mieux que rien.
Mais c'était pas facile d'accès non
plus.
Parce
que c'est sûr que si vous voulez aller faire un emprunt à la banque, si vous avez un CDD, c'est moins bien que si vous avez un CDI. Mais n'empêche que si vous avez un CDI, vous avez toujours pratiquement les mêmes mauvaises conditions qu'on a énumérées dans l'émission précédente, quoi. Vous n'avez toujours pas la garantie d'emploi, vous n'avez pas votre poste, donc vous ne savez pas d'une année sur l'autre les classes que vous retrouvez, etc. Enfin, toutes les choses qu'on a déjà évoquées précédemment, quoi. Hein, voilà.
Et donc pour terminer, ce qu'on a entendu évoqué dans les médias par le ministre, c'est-à-dire un concours exceptionnel.
Alors après, la titularisation, elle se fait, comme on le disait, par concours. Donc pour les gens qui ont 3 ans de service public au moins, ils peuvent accéder donc au concours interne, ce qu'on appelle le concours interne. Bon, il faut avoir au moins la licence, mais il y a cette possibilité donc de passer un concours qui n'est pas le concours externe, avec pas tout à fait les mêmes épreuves que la version on va dire académique, du concours externe. Et donc, il y a eu des grandes annonces, effectivement, à cette rentrée, sauf que notre ministre a peut-être fait beaucoup de vent, mais le concours qui est proposé, le concours exceptionnel ne s'adresse qu'au premier degré, donc aux enseignants des écoles primaires. Il ne s'adresse qu'à 3 académies, Créteil, Versailles et la Guyane. Et il va être éventuellement ouvert à partir de la L2, ce qui fait quand même grincer beaucoup. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et ça va donc concerner quoi, 370 places vont être offertes. Hein. Il n'y avait pas de quoi faire un tel battage médiatique.
Hein. Et donc vaste question qui interroge beaucoup de problèmes de l'éducation nationale sur le recrutement, la qualité de l'enseignement, la justice aussi sur l'ensemble du territoire de de ce système de recrutement et de la qualité qui est de l'enseignement qui nous tient à cœur. Merci Isabelle pour toutes tes explications et ton éclairage. Merci de nous avoir écoutés. Merci Rémi à la technique et à très bientôt dans Raison Gardée sur RCN.